Je suis avec Samuel Tétrault, cofondateur de la troupe de cirque québécoise Les Sept Doigts de la Main. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en Australie en ce moment pour le Melbourne Festival. Est-ce que c'est la première fois que vous venez au pays?
Non, c'est ça. Là, je suis plus certain si c'est la troisième ou la quatrième fois, mais en tout cas, c'est au moins la troisième fois. J'étais venu en 2006, je crois, avec le tout premier spectacle des Sept Doigts de la Main qui s'appelait Loft. Et on avait joué d'ailleurs justement au Melbourne Arts Centre, mais je pense pas que ça faisait partie du festival. Puis avant ça, j'étais venu, en fait, ça c'était la deuxième fois. La première fois, j'étais venu avec Allegria. À l'époque, j'étais équilibriste dans le spectacle du Cirque du Soleil.
Et donc, Triptyque que vous présentez au festival, au Melbourne Festival à partir de jeudi, c'est un spectacle assez particulier. Expliquez-moi ce que c'est.
Ben, c'est un spectacle vraiment qui, à l'origine, qui était l'objectif, c'était d'explorer un peu les rencontres possibles entre le cirque et la danse contemporaine. C'est un spectacle où, pour la première fois, les Sept Doigts de la Main, on a fait vraiment appel à des chorégraphes du milieu de la danse, qui sont des chorégraphes déjà bien reconnus, qui ont des styles bien à eux. Et donc, moi, en tant que directeur artistique de cette création-là, de Triptyque, j'ai choisi les trois chorégraphes et j'ai choisi un peu les paramètres de départ de chacune des trois pièces, puisque c'est un triptyque, il y a trois pièces séparées. Et même si les trois pièces sont des représentent des univers musicaux, visuels, chorégraphiques très différents, il y a une thématique qui les transcende toutes les trois, une thématique commune. Donc ça, c'est moi qui ai vraiment dirigé tout ça. Mais après chacune des collaborations, l'idée, c'était d'aller à la découverte de l'univers créatif chorégraphique de ces trois chorégraphes-là.
Et quel est l'univers de chacune de ces trois pièces-là?
Bien, disons, la base commune, c'est de, une réflexion sur la gravité et sur le rapport de l'être humain à la gravité. Mais la gravité, autant au niveau vraiment littéral qu'au niveau métaphorique. Donc, au niveau littéral, la gravité, c'est cette force qui nous attire vers le sol et cette force avec laquelle tout être humain est en constant dialogue. Chaque mouvement, chaque déplacement, quand on marche, c'est un petit déséquilibre vers l'avant, puis on fait un pas pour ne pas tomber en avant. Donc, à partir du moment où on se réveille le matin et qu'on doit combattre la gravité pour passer de la stature horizontale et se redresser et être debout et commencer notre journée, jusqu'à la fin de la soirée, quand finalement on se remet au repos, qu'on s'allonge, la vie est vraiment un dialogue avec la gravité. Et encore plus, pour les acrobates et les danseurs, nos formes d'art respectives ne pourraient pas exister sans la collaboration de la gravité. Parce que se tenir en équilibre sur une main, bien, ça serait absolument pointless s'il n'y avait pas la gravité avec laquelle il fallait négocier. Et même chose pour le jongleur qui lance une balle, bien, c'est la gravité qui fait que la balle revient. Donc, il y a quelque chose de très direct dans chacune des trois pièces au niveau de l'exploration de la gravité. Avant de parler du détail de chaque pièce, la deuxième thématique ou la deuxième approche de la gravité, c'est au niveau métaphorique, c'est qu'est-ce qui est grave dans la vie d'un être humain? Ben c'est la mort d'un proche, c'est une rupture amoureuse, c'est un accident, c'est tout d'un coup une décision qui nous entraîne à faire face à des responsabilités importantes. Et c'est quoi l'antidote à la gravité dans nos vies? Ben c'est la légèreté, c'est l'humour, c'est le rêve, c'est la fantaisie. Donc, au niveau métaphorique, il y a cette exploration-là aussi de ce qui est grave, de ce qui est déchirant, de ce qui est lourd un peu dans nos vies, puis à l'inverse aussi de ce qui est léger, de ce qui est humoristique, de ce qui nous permet de rêver puis de s'envoler. La première pièce, c'est un duo, chorégraphié par Marie Chouinard. Le style de Marie Chouinard est très abstrait, très contemporain. Je voulais qu'il y ait une progression au fil du triptyque. Donc, dans chacune des trois pièces, la première pièce, elle est beaucoup plus proche de la danse contemporaine et un peu moins circassienne, disons. La deuxième pièce, on a à peu près un rapport, je dirais, de 50-50 entre la danse et le cirque. Et la troisième pièce, là, on est dans quelque chose de beaucoup plus circassien, plus théâtral, qui va sembler un peu plus familier aux spectateurs qui connaissent le travail des Sept Doigts de la Main. Donc, c'est aussi une espèce de voyage initiatique pour le public de cirque qui commence avec une première œuvre qui peut être un peu déstabilisante, qui est moins cirque, qui est très abstraite. Et puis, au fil du spectacle, ils vont se retrouver de plus en plus en territoire connu. Avec la troisième pièce, là, il y a du jonglage, il y a du monocycle, il y a des disciplines aériennes, et c'est un peu plus théâtral, comme je disais. Mais par contre, pour le spectateur de danse contemporaine, il va peut-être se reconnaître un peu plus dans la première pièce, un peu la deuxième. Puis la troisième, là, il va se retrouver, lui, un peu plus en terrain inconnu. Puis ce que je souhaitais, c'est que le public de la danse à la fin dit « Ah, waouh, je pensais pas que le cirque pouvait être aussi dansé que ça, aussi chorégraphique que ça. » Puis la même chose pour le public de cirque qui se rend compte un peu que « Ah, ben, ah, je pensais pas que la danse contemporaine, ça pouvait être aussi acrobatique que ça, puis aussi touchant et aussi peut-être subtil dans un travail chorégraphique. » Et donc voilà, pour la première pièce, c'est une espèce de duo. C'est une histoire amoureuse, mais une histoire amoureuse, en fait, qui est jouée d'une façon presque comme du buteau. L'approche de Marie Chouinard va toujours à l'essentiel, va toujours à quelque chose d'assez primordial, presque primitif dans les émotions humaines. Donc, c'est un homme et une femme, mais qui sont mi-homme, mi-insecte ou mi-animal. C'est vraiment une espèce de pulsion, comme je disais, le primordial d'attraction, de répulsion, de dépendance, d'amour, de haine, de quête d'autonomie, mais en même temps de besoin de l'autre. Et tout ça se passe avec des béquilles au bout de nos bras. Donc là, c'est ça un peu, le, je dirais, le côté un peu circassien, c'est qu'on a des espèces de prolongement de notre corps, comme normalement un artiste de cirque est sur son trapèze ou son cerceau aérien. Là, on travaille avec des béquilles. Marie Chouinard, elle avait déjà exploré ça un peu dans une de ses pièces précédentes avec sa compagnie qui s'appelait Body Remix. Et donc là, elle souhaitait nous proposer ça. Moi, je trouvais ça intéressant parce que je travaille déjà avec des cannes d'équilibre, d'habitude. Donc là, de travailler avec des béquilles, de voir comment tout d'un coup on peut devenir des quadrupèdes, comment on peut augmenter notre relation avec la gravité, avec le sol, plutôt que de se déplacer juste sur deux points d'appui. Là, on est toujours sur quatre points. Et pour pouvoir se déplacer, ben, c'est comment on transfère notre poids de quatre points d'appui à trois points pour créer des trépieds, pour pouvoir libérer un bras ou une jambe. Donc, il y a quelque chose de très étrange, un peu comme rapport avec la gravité, puis qui a une incidence sur notre façon de bouger. Et donc, avec ces espèces de membres-là prolongés, qui font un peu comme vers des insectes, bien, c'est ça. Il y a toute cette relation-là amoureuse qui se déploie dans ce duo de 20 minutes, où on sent une espèce d'esthétisme, je dirais presque japonais, minimaliste. Il y a du papier autour de la scène, on marche sur le papier, il y a des micros qui font entendre au public le bruit du papier qui se froisse sous nos pas. C'est très stylisé, la scène est blanche. Le début, il y a même la scène d'ouverture. Ma partenaire est attachée dans une espèce de ligotage traditionnel japonais qui s'appelle le kinbaku, donc il est suspendu. Moi, je viens comme la délivrer de ça. Elle enlève un masque. Donc, il y a quelque chose aussi qui est comme une espèce de rituel amoureux, je dirais. La deuxième pièce, c'est chorégraphiée par Victor Quijada. Victor, c'est un chorégraphe qui habite à Montréal, qui vient du breakdance, mais aussi du ballet classique et de la danse contemporaine. C'est un ancien danseur de ballet classique, mais qui était aussi un b-boy. Fait que il a développé tout un langage chorégraphique qu'il appelle le rubber band dance method, qui est une façon de bouger dans un espace où c'est comme s'il y avait une densité dans l'espace. L'air n'est pas de l'air qui est vide, c'est plein de particules à laquelle on peut donner différentes densités. Donc, les corps sont en relation avec cet espace-là, avec les points d'ancrage au sol. Et puis là, donc, il y a toute une exploration avec un quintet d'équilibristes. Donc là, encore, il y a cette idée-là de progression dans les trois pièces. Hein. La première pièce, il y a juste deux artistes. La deuxième, c'est cinq, c'est un quintet. La troisième pièce, on est les huit. Et donc, ce quintet d'équilibristes-là, ben, c'est très circassien parce que la moitié de la pièce, ou même plus, se passe en équilibre sur les mains. Mais pour une rare fois, si ce n'est pas la première fois dans l'histoire du cirque, il y a cinq équilibristes qui travaillent ensemble et qui font une exploration vraiment chorégraphique du langage des équilibres sur les mains. Donc, comment, pendant qu'on est sur les mains, on peut développer un langage chorégraphique avec nos jambes, avec nos pieds, et d'explorer du travail en canon ou en unisson ou en contrepoids, en partnering, qui fait que, tout d'un coup, bien, ça devient plus comme un numéro de cirque d'équilibriste qui dure 5 minutes, mais ça, c'est encore une fois, c'est une pièce de 22-23 minutes. Et l'approche est très chorégraphique. Donc, ça reste une pièce qui est encore une fois assez abstraite, mais là, il y a un travail acrobatique d'équilibrisme qui est d'une virtuosité extrême, mais qui est abordé comme un langage chorégraphique. Donc, ça s'appelle Variation 9,81. C'est cette deuxième pièce-là. 9,81 mètres secondes carrés, c'est l'accélération des corps en chute libre au-dessus de la surface de la Terre. Donc, c'est un peu un clin d'œil, justement, à ce rapport-là, à cette quête-là de maîtrise et de contrôle qu'on cherche sur la gravité. La troisième pièce, c'est chorégraphiée par Marcos Morau. C'est un chorégraphe espagnol qui est vraiment une étoile montante de la danse contemporaine, particulièrement en Europe. C'est la pièce la plus longue, ça dure 50 minutes. Comme je disais, c'est très théâtral, mais en même temps, c'est très chorégraphique. Marcos est vraiment un génie de chorégraphe avec un travail très complexe et très méticuleux au niveau des trucs imbriqués, puis des travails d'ensemble, puis des chorégraphies de groupe où tout le monde se tient une partie du corps. C'est comme des espèces de marionnettes qui sont articulées, désarticulées sans cesse. Et toute cette pièce-là se situe un peu à mi-chemin entre le rêve et la réalité. Et c'est pas vraiment clair si c'est quelqu'un qui est en train de rêver, mais qui pense qu'il est réveillé dans son rêve, ou si c'est quelqu'un qui est réveillé, mais qui est en train de rêver comme debout. Et en fait, il y a comme deux, trois rêves un peu qui se rencontrent. Donc, on ne sait plus trop à la fin, c'est le rêve de qui. Donc, il y a un côté un peu surréaliste dans tout ça. C'est une espèce d'histoire d'une rencontre amoureuse, mais qui n'a peut-être jamais eu lieu finalement. Vraiment, il y a un côté surréel où, pour la première fois dans le triptyque, dans cette pièce-là, il y a des disciplines aériennes. Donc, il y a des sangles aériennes. Il y a une espèce de lit un peu qui se retrouve suspendu à s'envoler à 5-6 mètres au-dessus du sol. Il y a des poissons, donc des gros masques de poissons qui arrivent. Il y a vraiment des scènes un peu qui sortent de nulle part et qui sont assez drôles parce que c'est surprenant. Parce que tout d'un coup, tu as une chorégraphie, c'est ça, avec des artistes qui ont des masques à tête de poisson. Puis la fille est en train d'écouter une émission de télé, mais est en train de danser d'une façon complètement désarticulé, c'est presque la contorsion. Il y a un numéro de jonglage avec des boules de cristal qui est absolument magnifique, mais qui est comme pas un numéro solo comme on est habitué de les voir avec normalement les jongleurs qui font ça. Il y a deux danseuses qui dansent avec cet artiste-là, donc ça devient une espèce de trio de danse contemporaine, mais en même temps, il y a un jongleur qui manipule des boules de cristal, c'est magnifique. Puis, il y a un numéro de monocycle. Et puis le monocycle, en fait, moi, j'avais jamais pensé intégrer un numéro de monocycle dans ce spectacle qui allait marier la danse et le cirque. Parce que pour moi, le monocycle, c'était tellement une discipline de cirque qui me semblait comme très traditionnelle. Et s'il y avait une affaire que j'imaginais pas pouvoir danser, pouvoir traiter comme avec une approche de danse, c'était ça. Et finalement, il y a un duo avec une danseuse puis un artiste qui est tellement bon en monocycle que littéralement, il danse sur son monocycle puis qu'on oublie presque qu'il roule sur un monocycle. Et puis, ça devient une espèce de pas de deux qui est absolument phénoménal. Ça s'appelle Nocturne, la troisième pièce. C'est inspiré, évidemment, des Nocturnes de Chopin.
Puis, vous êtes le directeur du spectacle, mais vous mentionnez aussi que vous êtes aussi sur scène. Est-ce que c'est difficile de jumeler les deux rôles?
Oui, c'est toujours un défi assez intense, assez extrême. Mais quand même, là, ce qui était pas trop mal, c'est que moi, vraiment, mon rôle de directeur artistique dans ce spectacle-là, ça a été, comme je disais, de choisir les trois chorégraphes, choisir les artistes avec qui j'avais envie de travailler. Je voulais qu'il y ait à la fois des danseurs, danseuses qui viennent vraiment du milieu de danse et d'autres artistes qui viennent du milieu du cirque, pour que chaque forme d'art puisse vraiment aussi être présentée dans des moments où il y a une virtuosité telle au niveau du mouvement puis de la danse, que ça prenait vraiment quelqu'un qui a 10 ans de formation en danse pour faire ça. Même chose pour d'autres moments aussi. Donc moi, j'ai choisi les artistes, les chorégraphes, les thématiques. Après ça, une fois qu'on a commencé la création, particulièrement pour les deux premières pièces, moi, j'étais surtout artiste. Et j'ai fait confiance à Marie Chouinard pour faire la direction chorégraphique, la mise en scène de sa pièce. Même chose avec Victor Quijada pour la deuxième pièce. Évidemment, on avait tout le temps un dialogue pour lui dire, ah, tu sais, ça, je pense que c'est intéressant. Ah, ça, c'est moins intéressant. Ça me plaît moins. Mais c'était quand même lui qui dirigeait le truc. Et pour la troisième pièce, là, ça a été un petit peu plus un défi parce que j'ai vraiment co-dirigé ça avec Marcos et avec une autre des fondatrices de la compagnie, Isabelle Chassé. Donc, on a fait une co-direction à trois. Marcos a juste travaillé avec nous pendant trois semaines sur six ou sept semaines qu'on a eues pour créer la troisième pièce. Et donc, là, c'était un peu plus difficile, mais je suis moins présent dans la troisième pièce aussi pour me permettre, au moment de la création, là, d'avoir un peu plus de recul et d'avoir un regard extérieur. C'est toujours un défi là, de faire la direction artistique et d'être sur scène. Mais avant tout, moi, mon désir dans ce spectacle-là, c'était d'être sur scène. Donc, comme je disais, une fois que j'ai mis les paramètres de départ, après ça, je me suis laisser guider par chacun des, dans l'univers de chacun des trois chorégraphes.
Puis les autres artistes sur scène avec vous, vous mentionnez, ils ont des backgrounds, des talents tous assez différents, je crois.
Oui, tout à fait. Comme je disais, là, il y a 5 équilibristes, en m'incluant moi, parce que vraiment, la deuxième pièce, ça prend des équilibristes virtuoses pour arriver à faire ce travail-là chorégraphique en équilibre sur les mains. Ça, c'était impossible de prendre un danseur et d'imaginer le former en 2-3 mois, être capable de faire des équilibres sur les mains. Ça prend 5 à 8 ans pour apprendre à faire ça au niveau requis pour cette pièce-là. Donc, ça, c'était un point de départ. Ça prenait 5 équilibristes. Tous les artistes de cirque, ça prenait des gens qui aimaient, qui adoraient déjà la danse, qui avaient déjà une envie de bouger, qui avaient déjà certaines compétences, qui avaient déjà eux-mêmes pris toutes sortes de workshops pour avoir déjà une base en danse contemporaine assez forte et un désir d'aller plus loin avec ça. Et je cherchais des équilibristes qui avaient au moins une discipline secondaire. Donc, il y a un des équilibristes qui fait du jonglage avec les boules de cristal, il y a une autre des équilibristes qui fait du haut aérien dans les cordes lisses dans la troisième pièce et qui fait aussi une espèce de traversée en équilibre sur une corde molle qui est comme du slackline. Il y a une autre équilibriste qui fait un autre duo aérien sur la corde lisse. Donc, tu sais, ça prenait des gens un peu pluridisciplinaires. Puis après, j'ai choisi 2 danseuses puis un danseur parce que, comme je disais, j'avais envie qu'il y ait des moments où la danse, il y a des solos de danse, notamment dans la troisième pièce, où je veux dire, ça aurait été impossible de montrer ça à un artiste de cirque. Même si on bouge bien puis qu'on arrive très bien à se débrouiller, il y a un tel niveau de complexité et de virtuosité chorégraphique que ça prenait une danseuse exceptionnelle. Et je voulais qu'il y ait un moment où la danse devienne sublime. T'sais. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi aussi des gens qui venaient vraiment plus, a priori, du milieu de la danse, mais qui avaient déjà aussi une certaine approche acrobatique dans leur travail chorégraphique. Donc, il y a Anne Plamondon qui a créé le rôle. Elle, c'était une danseuse de rubber band dance, donc elle était déjà habituée de se mettre à l'envers, la tête en bas, en équilibre un peu sur les mains. Donc, quand je lui ai demandé d'aller dans des sangles aériennes, de se mettre la tête en bas, ou de à un moment donné, il y a une scène qu'on appelle le vertical bed. Donc, c'est un lit qui se retrouve debout, comme face au public. Ça fait une espèce de mur. Puis là, il y a les mains des artistes qui sont cachées derrière le lit, passent au travers du matelas. Puis c'est presque un peu comme de l'escalade. La danseuse est suspendue par nos mains, puis là, elle se retrouve à l'envers, puis elle se contorsionne, la tête en bas. Tu sais, ça prenait une danseuse qui avait déjà une certaine orientation spatiale, puis elle a déjà un minimum d'expérience acrobatique.
Ça fait presque un an que Triptych a été créé, ou du moins que vous êtes en tournée. Est-ce que le spectacle a changé, a évolué depuis?
Triptych a été créé en octobre 2015 à l'Atelier à Montréal. Le spectacle depuis, donc, en une année de tournée un peu partout, à Londres, en Norvège, en France, en Malaisie. Le spectacle évolue toujours un petit peu, des petits changements, des petits trucs qui se peaufinent. Et on a eu, bon, malheureusement, quand même quelques artistes qui se sont blessés ou qui ont eu, pas malheureusement, des bébés puis qu'il a fallu remplacer. Donc, à chaque fois qu'il y a un remplacement, ben c'est aussi l'occasion un peu d'approfondir les choses, de retravailler, d'adapter aussi en fonction des spécificités de chacun des danseurs qui se sont joints depuis la création.
Aujourd'hui, vous êtes au Art Center de Melbourne. Comment vont les préparations avant le premier spectacle à Melbourne ce jeudi?
Ça se passe très bien. C'est certain que l'Australie, c'est loin. On est toujours excité de venir ici. C'est un privilège, mais il y a toujours le décalage horaire aussi qui est un peu dur. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on est arrivé quand même, je ne sais pas, 4 ou 5 jours avant la première. Là. Et puis là, justement, on intègre une nouvelle danseuse. Donc, on en profite là depuis déjà 2 jours pour répéter. Donc, ça se passe très bien.
Et puis après votre série de spectacles à Melbourne, vous prenez une pause, puis ensuite c'est l'Europe, France et le Luxembourg au début de l'an prochain.
Exactement. Et puis après ça, probablement un retour en Amérique à l'automne et hiver 2017, peut-être même avec un retour à Montréal.
Merci beaucoup, Samuel, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. On sait que vous êtes très, très occupé, donc, avant que ce premier spectacle à Melbourne, ce premier d'une série de spectacles ce jeudi. Donc, on vous dit merde.
Ben oui, et c'est super. J'ai bien hâte d'être sur scène. Moi, ça va être aussi un retour pour moi sur scène ici, après la convalescence d'une petite blessure depuis quelques mois. Fait que ça, c'est excitant. Et puis, ben, j'ai bien hâte de faire découvrir cette nouvelle pièce de Sadoua au public australien.
Merci beaucoup, Samuel. Pour acheter votre billet pour Triptyque des 7 doigts de la main, rendez-vous sur le site du Melbourne Festival. C'est simplement www.festival.melbourne. Courte pause en musique et on revient avec le reste du programme.